Parole d'animaux.
Parole d'animaux.
L'info de la protection animale en continu.
Bonjour Olivia.
Bonjour Daniel.
Alors, que fête-t-on ce jour ?
Eh bien, en ce 18 mars, nous célébrons la Journée mondiale du recyclage. Et pouf, c'est l'occasion de jolies paroles pour vous dire que nous autres petits consommateurs sommes responsables de la pollution ambiante et qu'on est des affreux quand on jette une bouteille en plastique dans la nature. Ce qui, en soi, n'est pas faux. Mais si on rappelait quand même les infinis dégâts causés par la pollution maritime, notamment les innombrables filets de pêche perdus dans les océans, emprisonnant tant de créatures dans des mailles qui finiront bien souvent par leur être fatales. Et puis, qui nous dit de couper les élastiques de nos masques jetables en 100% plastique ? Oui, même s'ils ont l'air d'être en papier. Personne ! Alors qu'il y en a des animaux qui se tuent avec. Et puis, que dire de toutes les immenses décharges à ciel ouvert de la planète, dont les détritus plastiques s'envolent au gré du vent pour finir dans les arbres, dans les mers, dans les estomacs des éléphants et des pélicans ? Alors oui, bon, le tri au niveau individuel, c'est bien. Mais encore faut-il savoir ce qui est fait de ces déchets après. Au passage, on considère qu'en France, chaque habitant produit en moyenne 580 kg de déchets par an. Je vais vous dire que, en tant que Suissesse, je suis effarée de voir le temps qu'a mis la France à mettre en place un semblant de tri des déchets ménagers. Moi, il y a 40 ans, je voyais déjà mes parents trier scrupuleusement leurs déchets. Et ils n'étaient pas particulièrement écolo ni babacool. Hein. Mais en Suisse, quasiment tout le monde le faisait déjà et le fait encore. Depuis que j'ai l'âge de déchirer du papier, extirper un sandwich d'une feuille d'aluminium, ouvrir un bocal en verre ou une bouteille en PET, je sais que tous ces éléments ne vont pas dans une même poubelle. Et oui, donc, en Suisse, cela fait plus de 40 ans que nous avons à peu près tous 4 ou 5 poubelles sous l'évier. Le papier et les carton d'un côté, l'alu et le verre de l'autre furent les premiers à être recyclés. Puis, avec l'avènement du PET, on a ajouté la corbeille à plastique et enfin le dernier venu dans les villes, mais cela fait déjà au moins 25 ans, fut le compost. Tous ceux qui le souhaitent, en Suisse et même dans les villes, ont en effet un petit bac vert à compost avec des sacs biodégradables spéciaux dans lesquels nous mettons nos restes de repas, la nourriture dont la date est dépassée, certaines litières d'animaux même, etc., etc. Et tout cela est ramassé gratuitement une à deux fois par semaine sur votre trottoir. C'est le cas du papier carton et du compost justement, ou alors les choses sont récupérables dans de nombreux points de collecte de chaque quartier. C'est le cas pour le PET, l'alu, le verre que l'on voit trié par couleur, s'il vous plaît, mais aussi les piles électriques et bien sûr les capsules de café en alu. Alors, s'il y a bien sûr un peu partout des imbéciles qui continuent à mettre les pelures de carottes avec les emballages de vaches qui crient, car non, la vache ne rit pas, c'est un mythe. Les papiers en alu et les gobelets de yaourt, globalement, les Suisses font attention. Je n'ose donc pas vous dire mon état de panique et ma résistance lors de mes nombreux séjours en France, et ce jusqu'à il y a quelques années seulement, devant l'impossibilité de faire autrement que de tout jeter dans une même poubelle. Hérésie écologique, hérésie olfactive, hérésie économique aussi. Car il faut savoir que vos déchets, une fois triés, ne sont pas forcément récupérés. Non, ça c'est un leurre. Mais ils sont ensuite soit valorisés, soit détruits, mais d'une manière du coup beaucoup plus rentable et efficace que lorsque trop de différentes matières sont mélangées. Prenez le papier par exemple, ça brûle en quelques secondes, mais l'alu est très lent à brûler. Brûler les deux ensemble est donc une perte énergétique majeure. Enfin bref, évidemment pour la planète, nous devons trier, recycler et upcycler, mais il serait bon que les gouvernements balayent aussi un peu devant leur porte de méga producteurs avant de nous dicter des comportements certes utiles et évidents, mais qui ne résoudront évidemment pas tout le problème de la pollution, car les gros pollueurs, ce sont les élevages industriels, les cultures intensives, tiens, au passage, les néonicotinoïdes vont refaire leur apparition tout prochainement, histoire de soi-disant sauver le lobby de la betterave sucrière, ben oui, pourquoi utiliser un petit bistouri fin et subtil quand on peut utiliser une kalachnikov à effet retard, qui plus est, dans la mesure de son désastreux impact sur les pollinisateurs. Enfin, mais encore, les industries pharmaceutiques, les raffineries, les transports maritimes notamment, sans oublier les matériaux de nos antennes de téléphonie mobile. Saviez-vous que les antennes 5G sont un désastre écologique ? Et puis, pourquoi finalement autorise-t-on même la production de matériaux si polluants ? Je pense ici notamment aux différents emballages plastiques. Tout cela devrait être fini, terminé du jour au lendemain. Tant de demi-mesures et de mesures vivant des cibles qui ne sont peut-être pas mauvaises, mais pas si prioritaires. terre au final. Bref, oui, oui, recyclons, c'est bien, mais ne polluons pas, c'est encore mieux. Pour la planète et tous ses occupants sauvages qui meurent de nos déchets non dégradables. Mais bon, je m'emporte, revenons donc à aujourd'hui. Aujourd'hui, donc 18 mars, nous fêtons aussi les Cyrilles. Alors, des Saints Cyrilles, il y en a à l'appel. Mais celui-ci, celui d'aujourd'hui, c'est Cyril de Jérusalem, qui fut évêque de cette même ville au 4e siècle. On garde de lui notamment un certain nombre d'écrits à visée liturgique, très précieux témoignages de l'histoire des cérémonies chrétiennes. Son œuvre fut suffisamment importante pour qu'il soit proclamé docteur de l'Église en 1883. Bref, une petite pensée ici au passage pour l'excellent photographe naturaliste du Haut-Doubs, Cyril Daunier, amoureux de la faune en tout genre, dont les clichés valent franchement le détour, et je vous recommande vivement d'aller y jeter un petit coup d'œil sur internet. Pour info, son premier livre de photos est sorti en novembre 2020, c'est tout frais. Bonne fête à lui, on aime les hommes qui guettent la vie sauvage mais pas pour la chasser. Bon, allez, après cette un peu longue introduction, je sais Daniel, mais ne m'en voulez pas, SVP. Que diriez-vous d'un petit dicton fake fur for sure? Le voici. À la Saint-Cyril, j'admets que la chasse est un truc vraiment débile. Clin d'œil à l'actu du jour dans quelques instants.
Et la pensée du jour?
Allez, puisque nous partons sur la chasse, deux courtes et jolies citations que je n'ai pas pu départager pour aujourd'hui. Tout d'abord, une magnifique citation de Voltaire. « La chasse est le moyen le plus sûr pour supprimer les sentiments des hommes envers les créatures qui les entourent. » Tout est dit. Mais encore une très jolie de Stepan Yamensky. « La chasse, c'est abandonner son âme pour son arme. » J'adore.
Et le chiffre du jour ?
10 000 tonnes. C'est le poids du plomb et du plastique issus des cartouches de fusils de chasse répandus dans les forêts et les zones humides de France, selon l'Agence européenne des produits chimiques. Et après ça, les chasseurs s'estiment écolos avec leur soi-disant régulation de la faune. Non mais de qui se moque-t-on ? Par contre, surtout, trions nos petits pots de dessert au soja, hein, c'est important. Bref.
Des actus aujourd'hui ?
N'avez-vous pas entendu aujourd'hui les cris de joie de tous les anti-chasses de France ? Turlututu, c'est fini la chasse à la glu. Oui, oui, enfin ! La Cour de justice de l'Union européenne a jugé hier la chasse à la glu illégale. En effet, particulièrement cruelle et non sélective, cette pratique, comme d'autres hélas encore légales, est dénoncée depuis des lustres par les organisations de défense des animaux sauvages et notamment la LPO, Ligue de protection des oiseaux, dont nous avons parlé il y a quelques temps. Alors, bien sûr, les défenseurs de cette pratique ont exprimé leur mécontentement, estimant qu'au nom de la tradition et de la culture ancestrale, on devrait maintenir la chasse à la glu, qui fut par exemple le seul moyen pour les femmes durant la guerre pour mettre, je cite, « un peu de viande dans leur soupe ». Ah ah, quelle rhétorique émotionnelle perfide ! La tradition, le patriotisme, les petites femmes esselées pendant que les hommes chassaient l'homme, qui avait besoin d'un peu de viande, les carence en protéines. Ah, alors non, non et non. D'abord, si on s'en tenait aux traditions, les Africains seraient encore enchaînés, personne ne s'érigerait contre la lapidation des femmes, qui du reste n'auraient toujours pas le droit de vote dans aucun pays, et tant qu'à faire, on vivrait encore sous le joug du droit de cuissage. Merveilleux ! Quelqu'un pourrait-il ici me rappeler d'ailleurs le pourcentage de femmes parmi les chasseurs en France ? Arrêtez, messieurs, s'il vous plaît, d'invoquer la tradition pour légitimer vos pratiques violentes, sadiques et machistes. Rien ne justifie le meurtre. Rien, pas même la faim. Enfin, à cette bonne nouvelle, j'en ajoute hélas une plus triste et dans le même registre. À Genève, en Suisse, la Commission consultative de la diversité biologique a rendu ce mardi un préavis positif concernant l'abattage de cerfs dans le canton, plus particulièrement dans les bois de Versoix. On estime que la population de cerfs pourrait y être de 60 à 70. Et le Conseil d'État genevois doit décider s'il autorise ou non le tir d'une dizaine d'individus par an. Tenez-vous bien, le but de cette manœuvre serait juste de protéger les jeunes pousses de chêne du bois de Versoix, dont se nourrissent les cervidés. Un débat qui prend de l'ampleur, après l'abattage stupide, fin février, dans le canton de Genève également, d'un pauvre cerf égaré dans un cimetière de la ville. Alors qu'on aurait pu simplement le capturer et le remettre dans la nature, les coupables de ce crime ont estimé que non, non, il n'y avait pas de meilleure option que de le tuer. Bref, un scandale absolu.
Vous nous présentez une nouvelle association aujourd'hui ?
Eh bien, il me semble que le tapis rouge est tout déroulé déroulé pour vous parler de l'incontournable et importantissime AOC. Non, pas l'appellation d'origine contrôlée, mais bien l'alliance des opposants à la chasse qui milite pour la défense de la faune, de la nature, le respect de la loi, la défense des non-chasseurs et la protection de la jeunesse avec, pour objectif, de changer la loi pour le changement du statut de l'animal sauvage et pour la réforme de la loi Verdeil en France. Alors, cette alliance est entre autres un groupement de plusieurs associations de protection animale qui s'érige contre les diverses pratiques de chasse et historiquement, il s'agissait d'un collectif, le collectif du 21 septembre, lui-même fondé en 2013 et ayant réuni plus de 70 associations. Le collectif ayant évolué en 2018 vers la forme associative fêtière actuelle qui représente ainsi toutes ces structures adhérentes auprès des autorités. Car à l'AOC, point de contemplation émotionnelle. Ici, on dénonce, on agit, on écrit, on interpelle les élus, on travaille à la modification de différentes législations autour de la chasse en France et on informe et sensibilise à l'odieuse réalité de la chasse, ou disons plutôt des chasses, y compris le piégeage en France. Du reste, au rang de ces victoires, l'AOC peut faire valoir des rencontres politiques au plus haut niveau, diverses obligations juridiques ainsi que des condamnations. Une alliance dont toute association luttant pour la protection animale peut, sur demande, devenir adhérente et dont tout particulier peut également devenir membre. C'est du reste sa particularité. L'AOC est la seule association en France qui fédère à la fois des particuliers et des structures morales, dont, au passage, mon association Fake Fur for Sure n'est pas peu fière de faire partie. L'AOC est actuellement forte de plusieurs milliers de membres. Et c'est important car l'AOC ne vit que grâce aux cotisations et dons de ses adhérents, membres et sympathisants. Le comité de 12 personnes, présidé par Monsieur Jean-Louis Chuilon, est strictement bénévole et contribue même parfois financièrement aux différentes dépenses de l'association. Alors, pour continuer ses projets dans les meilleures conditions possibles, l'AOC a vraiment besoin de soutien financier afin de créer un fonds de dotation, mais aussi vraiment besoin de pouvoir acquérir du matériel de communication. Par ailleurs, avis aux intéressés, l'AOC est actuellement à la recherche d'un ou d'une attachée de presse bénévole ainsi que d'un trésorier bénévole. Toutes les informations utiles sont sur leur site internet alliance.opposant.org ainsi que sur leur page Facebook et compte Twitter. Et sur leur site, vous trouverez tout l'historique et les détails techniques sur l'AOC, ses actualités, ses actions, ses récentes infolettres, ses pétitions, de la documentation juridique, une revue de presse et des témoignages. Bref, une asso sérieuse qui se démène au quotidien pour faire cesser l'hérésie de la chasse sous toutes ses formes.
Y a-t-il des nouvelles pétitions, Olivia ?
Eh bien, comme je le mentionnais à l'instant, l'AOC est précisément à l'origine de plusieurs pétitions que vous trouverez aisément sur leur site où elles sont toutes mises en lien. Il y en a actuellement une douzaine, toutes bien ciblées, alors faites une BA en allant les signer. Merci.
Olivia, un petit coup d'œil sur l'agenda ?
Rien à notre connaissance pour aujourd'hui, jeudi 18 mars, donc raison de plus pour aller cliquer et pourquoi pas partager les pétitions de l'AOC.
Merci Olivia.
Merci à vous Daniel.
Et on termine avec quelle musique Olivia ?
Allez, pour conclure cette chronique sur la chasse, je vous propose un vrai petit bonbon qui date de 1953, déjà avec notre inoubliable Bourvil et sa mémorable chanson « Vive la chasse », pleine d'humour, si vrai, mais si triste constat. Depuis les années 50, décidément, rien n'a vraiment changé. À écouter jusqu'à la fin. Bonne délectation. C'était Olivia de l'association Fake Fur for Sure et je vous dis à demain sur Radio Parole d'Animaux.
Ah, que la chasse est un sport attachant, rien n'est plus beau que la chasse. C'est bon de marcher des heures à travers champs, dans la bonne terre grasse. On a mal aux pieds, ça ne fait rien, c'est pour le gibier que l'on vient. Bon, en plein dans le mille, je l'ai mon perdreau. Ah non, c'est un corbeau, comment ça se fait? Bon, en plein dans le mille. Oh mais qu'est-ce que ce chat faisait là? Puis on va plus loin, ça y est, voilà le bon coin. C'est par là que les sangliers passent. Tiens, tiens, dans le fourré, un bruit et vous tirez. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, le garde-chasse? Bon, en plein dans le mille, y a plus qu'à tirer un chèque non barré. Pour boosté, espèce d'imbécile. La chasse est un sport difficile. Chasse à l'arrêt ou bien chasse à l'affût, toutes les deux je les aime. Mais il existe une chasse de plus, et moi je préfère cette troisième. On y tire un gibier frisé, caché dans les Champs-Élysées. Oh, en plein dans le mille. Oh, le bel oiseau, il s'appelle Zozo. Oh, en plein dans le mille. Si j'en crois sa taille, c'est une caille. Ah non, erreur qu'il l'eût cru. Cette caille n'est qu'une grue, mais une grue qui n'est pas une bécasse. Une fois dans son nid, elle vous présente à qui? Au type qui lui sert de garde-chasse. Con, en plein dans le mille. Faut encore tirer un chèque non barré. Oh non, monsieur Émile, la chasse est un sport difficile. Oh, en plein dans le mille, si vous désirez quelque chose à tirer. Oh, en plein dans le mille, suivez mes conseils éclairés. Rentrez vite chez vous, étirez les rideaux, étirez même la chevillette. Tirez votre femme dans vos bras au dodo, étirez des plans sur la comète. Oh, en plein dans le mille, mais soyez gentils, rangez vos fusils, allons, allons. La chasse est inutile, laissez les petits oiseaux tranquilles.